quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on accueille Denis Renaudin, il est délégué de la Fédération des centres sociaux de la Vienne. Bonjour.
Ah oui, bonjour.
Merci d'être avec nous à l'occasion d'un événement qui est prévu demain, toute l'après-midi, à la Maison des projets de Buxerolles, organisé par le Pacte du pouvoir de vivre et la thématique est régénérer la démocratie. Alors, peut-être pour nos auditeurs et auditrices, revenir déjà sur ce qu'est ce pacte du pouvoir de vivre qui est né au niveau national il y a quelques années déjà.
Oui, c'est ça. C'est né en 2019 autour de grandes organisations syndicales, associatives, des associations majeures comme le syndicat CFDT, mais aussi le Secours populaire, ATD Quart-Monde, des grandes organisations d'éducation populaire. Issus de ce qu'on appelle la société civile, les corps organisés de la société civile, qui ont eu besoin de se réunir dans une période qui était une période préélectorale. Il y a les élections européennes, arrivaient les élections législatives, présidentielles, donc qui ont eu besoin de se réunir pour dire, ben voilà, nous on agit, on est des agents de proximité, on agit sur les questions sociales dans la société, et on souhaite, dans cette démocratie un peu usée, un peu, voilà, prendre notre part et revendiquer des solutions pour un monde avec plus de justice sociale, plus de justice écologique, un monde qui pense la solidarité, qui la met en œuvre, et voilà. Donc l'idée du pacte de pouvoir de vivre, c'est une initiative un peu de faire alliance avec ces personnes, ces millions de bénévoles qui agissent au quotidien, qui modifient un peu les choses sur les territoires, qui créent des solidarités, qui approchent avec de la bienveillance les questions sociales, et se dire, eh ben, nous, on doit être entendus dans un projet politique pour notre pays. C'est-à-dire faire évoluer le débat public. Il n'y a pas que le vote, il n'y a pas que la représentation politique, il y a aussi cette société civile, et on l'a vu lors des crises sanitaires, lors des élections ou quand il y a des questions majeures sur notre société, elle peut se mobiliser. Donc c'était ça, et on dire, sur plusieurs sujets, on a des propositions à faire, parce que ces sujets, on les connaît, on gère les questions de logement au quotidien dans la cité, on gère les questions de santé, on gère la question alimentaire, on gère les questions écologiques, on gère les questions de transport, et donc on est des experts de notre territoire. Et donc comment vous, représentants politiques et élus, vous prenez en compte cette société civile agissante si on veut régénérer un peu cette démocratie qui ne peut pas être simplement incarnée avec un homme, une femme qui aurait une vision commune pour tout le pays.
Et alors, comment ça s'est décliné localement dans la Vienne ?
Alors nous, dans la Vienne, on a à peu près de cette période-là, mais en 2020, réuni, nous, localement, les structures qui sont pas d'ailleurs dans le pacte de pouvoir de vivre. Et on a été sur les territoires réunir des bénévoles, des gens qui s'engagent sur des causes qui sont... On a été sur les questions de l'emploi à Châtellerault, on a fait une réunion où il y a 50 personnes, un vrai débat d'échange sur comment on aborde les questions d'emploi, les questions des chômeurs aussi. On a travaillé la question de la santé sur un territoire comme le Civrésien. On a travaillé la question de l'alimentation sur le moment rionnais. On était sur le Loudunais. Enfin, on a réuni à peu près 150 personnes, 50 à 100 personnes, à 40 à 50 personnes à chaque fois, presque 150 personnes. Et on s'est rendu compte, comme on le savait, qu'il y avait toute une population agissante sur les territoires. Des gens qui trouvent des solutions aux problèmes que la population a sur les questions de mobilité, de santé, d'emploi et tout ça. Mais on s'est rendu compte aussi que quand on abordait la question politique, c'est-à-dire si vous agissez, si vous rendez service aux demandeurs d'emploi, si vous rendez service aux personnes étrangères sans papier, c'est bien que vous avez aussi une vision de la société. Vous pouvez pas, je sais pas quoi, consacrer quasiment un mi-temps à l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies sans avoir vous-même une vision de la société. Et l'idée... Ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes-là, ces engagements-là, se font des fois à bas bruit de politique. C'est-à-dire, ils ne s'autorisent pas à dire qu'ils ont aussi un projet politique, aussi une vision sur la société. Alors que leurs gestes, leur engagement, leur manière de concevoir les relations entre les personnes est déjà un projet politique. Et donc, on se dit que dans cette période-là, cette question de la politique, c'est comment on veut vivre en société demain, quelle société on construit pour nos enfants, eh bien, il faut qu'elle s'exprime, elle franchisse le barrage du geste, mais aussi qu'elle devienne un discours commun avec une masse de gens qui ont une même vision, mais qui le pratiquent, mais qui n'expriment pas.
Et comment on explique ce fait qu'effectivement, ils ont des engagements politiques, dans le sens d'engagement pour la société, et que ce mot politique peut-être soit devenu un petit peu tabou. On n'ose plus dire qu'on fait de la politique, même certains politiques disent qu'ils ne font pas de politique.
Oui, exactement, c'est ça. C'est une marque, quelque chose, un peu une tâche indélébile. Et donc, c'est assez étrange. Ça nous a interrogés. Oui, c'est véritablement étrange. Alors que... Évidemment, quand on écoute pourquoi les gens s'engagent, eh bien oui, ils veulent vivre dans une société, on respecte l'autre, ou celui qui a moins, eh bien il y a une fonction d'équité. Il y a une vraie question. Je pense qu'il y a une défiance de cette politique partisane, de ces joutes d'hommes, de femmes qui jouent ensemble, qui s'affrontent, et qui, ma foi, ne vont pas très loin dans quelle vision on a. C'est-à-dire, on vote pour des gens où la question de la vision de la société à long terme est des fois peu exprimée. Donc on délègue nos voix à des gens. Voilà. Et je crois que dire la politique, c'est dire, nous, on ne veut pas être comme ces hommes et ces femmes-là, on ne veut pas être ressemblé à ça. Et donc, on préfère se taire. Voilà. On préfère agir. Et ce qui est sans doute, qui est de manière un optimisme. Enfin, en tout cas, moi, ça me porte à l'optimisme, ces questions-là. Mais en agissant, on ne fait pas quand même collectif sur des choses qui pourraient nous rassembler et faire modifier les choses. C'est pour ça qu'il nous a semblé important de prendre le temps de nous arrêter, nous, les organisations associatives, les organisations syndicales, sur une journée pour dire peut-être que nous-mêmes, dans notre propre fonctionnement, on nie cette question de la démocratie, on nie cette question du débat politique, on élude ça. Est-ce qu'on ne devient pas neutre? La question de la neutralité est une question centrale aujourd'hui. Pour bien s'entendre avec l'autre, il faut plutôt être neutre. La question de la laïcité travestit cette question-là d'ailleurs. Et donc, c'est un peu notre analyse, on veut creuser ça demain dans une rencontre que l'on fait avec le pacte de pouvoir de vivre au niveau local. On veut dire, mais peut-être nous, dans notre propre organisation, nous ne mettons plus au travail... sur des sujets majeurs, la question de le désaccord, comment on anime le désaccord, comment on gère la délibération, comment on gère la décision en commun. Et peut-être on a oublié de faire ça, nous, mettons les associations comme celle que je représente, qui est la Fédération des associations d'éducation populaire, on a peut-être oublié cette question-là.
Et d'où, du coup, cette thématique de demain, la régénération de la démocratie, c'est-à-dire peut-être imaginer ensemble d'autres façons de faire de la démocratie que par, vous disiez, le vote, la délégation à des politiques de notre avenir.
Oui, nous on pense ça, bien sûr. On pense que le monde est complexe. La question est complexe. La question du logement, la question de la mobilité, la question de l'emploi, c'est une question complexe. Et que ça ne peut pas simplement se passer dans le cercle des politiques désignées. C'est-à-dire, on le voit bien au niveau local. Les questions de déplacement, les questions liées à l'écologie, à la transition écologique, il faut embarquer un territoire. On a vu, mettons, sur le moment Rionnais, que sur les questions de l'alimentation saine et accessible pour tous, eh ben, c'est tout un territoire qui s'embarque avec des agriculteurs, des responsables de lycées. Enfin, il y a toute une vie qui... Et on se dit que sur les questions complexes, il faut que la société civile, qui a une expertise, s'accorde, débatte avec les représentants politiques. Mais pour faire ça, on pense aussi que nos associations, les syndicats, sont aussi une école de la démocratie. Enfin, nous, on travaille beaucoup, les centres sociaux, en direction de la jeunesse. La question de débattre, être en désaccord, sans s'affronter, c'est-à-dire d'avoir des idées différentes. Dire, moi, je crois qu'il y a une vie après la mort, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, et je peux quand même agir avec toi. Je veux dire, ça s'apprend. C'est-à-dire, le débat, la délibération, c'est quelque chose qui s'apprend, comme on apprend à faire du vélo, on apprend à conduire. Et nous, les forces associatives, syndicales, on doit remettre ça au travail, me semble-t-il, pour dire, eh ben, si on veut construire une démocratie éclairée, qui n'est pas simplement sujette, je sais pas, à la dernière information, à la dernière buzz sur un réseau quelconque, il faut qu'on prenne un peu le temps de réfléchir ensemble, d'analyser ensemble, de connaître l'autre, de connaître d'où il vient, sa culture et tout ça. Et il faut laisser du temps pour faire ça, il faut du temps. Et sans doute nos associations doivent, elles aussi, laisser... ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire une éducation politique avant tout. Ce n'est pas l'éducation du peuple, c'est une éducation politique. Et nous, acteurs de l'éducation populaire, acteurs du monde syndical, qui rejoignent le pacte du pouvoir du eh ben, il faut qu'il y ait des espaces pour penser la société de demain et réfléchir ensemble.
C'est peut-être effectivement ce temps-là qui n'est peut-être pas accordé aux acteurs associatifs. En tout cas, c'est ce que vous proposez demain entre 14h et 20h30. Il y a deux temps. D'abord, un temps d'atelier de réflexion, justement, et ensuite un temps de table ronde. Peut-être parler d'abord de ces ateliers.
Oui, les premiers ateliers, c'est ça. Il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont inscrites. C'est, qu'est-ce que c'est qu'être démocratique ? C'est quoi la démocratie ? Qu'est-ce que c'est qu'être démocratique ? Proposer un processus démocratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'idée, c'est de s'interroger à partir de textes, de penseurs, de sociologues, de philosophes, mais aussi parce qu'on a deux intervenants, Irène Pereira, qui est sociologue et qui travaille aussi sur ces questions-là, et Jérémy Louis, qui est chercheur à la Fédération des centres sociaux, qui travaille sur la question de la participation citoyenne. Et donc, c'est s'interroger sur qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot démocratique, qu'est-ce que ça veut dire les mots démocratie, voilà, pour dans un et se nourrir de cette réflexion-là de l'après-midi et des échanges et on le fait pas, c'est pas une journée descendante, c'est une journée conçue comme le conçoit l'éducation populaire, c'est à partir de la connaissance et des savoirs des personnes qui sont présentes, et le soir c'est de se dire, eh ben nous demain si on peut qualifier ce qu'est un processus démocratique, comment nous le monde associatif, la société civile, on s'organise pour justement régénérer cette question-là, régénérer les processus démocratiques. Et puis comment on s'organise demain ? Parce qu'il y a aussi des échéances électorales importantes qui sont devant nous. On a eu, la société civile s'est engagée il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a des élections législatives. Entre autres, elle s'est engagée contre la montée des extrêmes et contre l'extrême droite, il faut le dire. Enfin, c'est évident. Et donc on se dit qu'il y a des nouvelles échéances électorales, locales, nationales. Et comment on fait alliance les uns avec les autres ? Parce qu'il y a aussi une dérive, sans doute, aussi du monde associatif, comme il y a une dérive du monde politique. C'est-à-dire qu'on est un peu chacun dans son couloir. C'est-à-dire les uns côté des autres. Et l'idée du pacte de pouvoir de vivre, nationalement et localement, encore plus localement, moi je le pense, c'est de faire alliance avec des syndicats qui sont sur des défenses de corporations, on peut aussi le penser, mais aussi des défenses d'idéaux sur la question de l'emploi. Faire alliance avec des syndicats, faire alliance avec une multitude d'associations qui, des fois, travaillent sur l'enfance, des fois sur la jeunesse, des fois sur la question du logement, des fois sur la question du déplacement. L'idée, c'est de faire alliance autour des propositions du pacte de pouvoir de vivre pour peser demain ensemble, et non pas chapelle contre chapelle, si j'osais dire ça, pour faire un peu basculer les choses, c'est-à-dire rendre une société plus apte à avoir une intelligence collective. C'est-à-dire, voilà, le monde est complexe, c'est pas l'un ou l'autre qui va avoir la solution, mais c'est bien ensemble qu'on va trouver des solutions pour affronter les difficultés actuelles.
Et justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette journée de réflexion et débat, et qu'est-ce que vous allez pouvoir donner comme suite à ces échanges et à ces idées ?
Écoutez, nous, on est assez fiers de, pendant 3 ans, 4 ans, d'avoir fait vivre ce groupe localement dans la Vienne, d'avoir réuni des gens qui s'intéressent à nos travaux et aux travaux du national. L'idée, c'est de poursuivre ce groupe, lui donner sans doute plus de dynamique, plus d'impact, une visibilité plus grande. On a un problème de communication, mais c'est pas vrai, parce que vous m'invitez en plus, mais voilà. Donc je crois que l'idée, c'est de se se redonner un peu un élan autour de ça, avoir de nouvelles personnes. On est assez fiers qu'aujourd'hui, demain, il y a 65 personnes assez diverses qui sont inscrites. Donc l'idée, c'est de refaire un groupe qui est plutôt départemental. On se positionne au niveau départemental. On sait qu'on a un département qui a des pôles urbains, mais aussi des pôles ruraux. Il y a quand même des solutions un peu qui peuvent se croiser. Donc l'idée, c'est régénérer un groupe de réflexion, pacte de pouvoir de vivre, dans la Vienne, et qui puisse présent, être écouté et participer aux travaux des différentes forces politiques de ce département.
Oui, parce que dans un an, il y a les élections municipales. Comment une telle initiative peut contribuer au débat dans ce cadre-là ?
Eh ben, je crois que oui, quand on va parler quand des listes vont se présenter pour parler de la cité, de comment on vit dans son village, comment on vit dans sa commune, comment on vit dans sa ville, comment on vit dans son quartier, je pense qu'il y a déjà sans doute des listes qui le font, mais je pense qu'écouter la société civile, écouter la jeunesse, mettons, il y a aussi toute la voix de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse n'est pas un sujet de préoccupation, la jeunesse c'est des acteurs de la cité, c'est-à-dire comment aujourd'hui par des processus, là encore, démocratiques. On donne la parole à des jeunes, comment ils s'expriment sur comment ils vivent la ville, comment ils vivent le monde rural, comment ils vivent l'université, comment ils vivent l'école, comment ils vivent leur scolarité, la recherche d'emploi. Nous, on est prêts pour ça. Aujourd'hui, des associations comme les nôtres, mettons les centres sociaux, nous, on a aujourd'hui une quarantaine de jeunes qui, assez tous les ans, réfléchissent à des questions de société, qui sont prêts, aptes à prendre la parole dans des débats citoyens et dans des listes aussi citoyennes qui pourraient se présenter au niveau local. Donc, mettons, ça, c'est quelque chose de concret. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'accompagner une espèce d'éducation à la réflexion collective sur des sujets qui nous concernent tous.
Merci beaucoup, Denis Renaudin. Donc, vous êtes délégué de la Fédération des centres sociaux de la Vienne et vous veniez présenter pour le Pacte du pouvoir de vivre la manifestation qui a lieu demain. Donc, l'après-midi, ce sont des ateliers. C'est encore possible de s'inscrire ?
Oui, on peut venir. Ça sera à Buxerolles. C'est à Buxerolles, la maison des projets à Buxerolles. Voilà.
Et puis, le soir, donc, table ronde de 18h à 20h30 et démocratique, une société qui se connaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. Voilà ce qui va vous guider, cette phrase de Paul Ricoeur. Merci beaucoup.
À vous.
On continue en musique avec ce beau projet de Roseau, avec plein de collaborations. Ce titre-là, Why Should I Smile, c'est avec Mélissa Lavaux.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for former lovers in my crimes. Another day without you, I'm better off without you. Another day without you, should I smile? Why should I smile for you? Action so vile, speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you,
dans Séquence Midi, on accueillera un représentant de Poitiers et Grand Poitiers du CCAS puisqu'il décide de maintenir les délibérations sur l'extension du congé pour accueil de l'enfant et le congé menstruel, malgré le fait que ce soit considéré comme illégal puisqu'il n'y a aucun aucune mention dans la loi pour pouvoir permettre ces congés particuliers. Et puis on accueillera aussi le premier festival des arts à l'école. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma en compagnie d'Erwan, qui est service civique au cinéma Le Dietrich. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles du joueur de Go.
C'est ça. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager un petit peu. Prenez vos affaires, faites un petit sac, bon, pas trop encombrant, et partons pour le Japon féodal, plus précisément à l'époque d'Edo, qui s'est étalé de 1603 à 1868. Bon, ce n'est peut-être pas le voyage que vous espériez, mais pourtant, je vous assure que vous serez surpris par le film japonais que nous sortons aujourd'hui au Dietrich, Le Joueur de Go. Le Joueur de Go, ça raconte quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'un ronin, c'est un samouraï sans maître, qui a été contraint de quitter celui-ci à la suite de fausses accusations à son encontre. Vivant maintenant paisiblement avec sa fille, plusieurs années après cette affaire, c'est son passé et son ennemi juré qui refont surface. Même s'il est mû par sa déontologie de samouraï, un code d'honneur strict et incorruptible, le désir de vengeance va cette fois-ci être très grand pour lui. Dans le film, on va retrouver des paysages du Japon d'antan, magnifiquement photographiés, hein, vous le verrez, les couleurs sont toutes éclatantes pour un résultat qui laisse vraiment estomaqué. On se demande comment ils ont pu obtenir ce résultat-là. Il y a aussi un grain dans l'image assez marqué et très appréciable qu'on peut lier à un tournage en pellicule. Je ne sais pas exactement si c'est le cas ici, mais le résultat est tout de même saisissant et fait gagner à l'image beaucoup de textures. Mais surtout, ce procédé appuie l'hommage que le film fait à tout un genre, celui bien sûr du film de samouraï. Bref, rappel tout de même de quelques grands films de ce genre très importants dans l'histoire du cinéma japonais. On a le film Orochi, film muet des années 20 qui a aujourd'hui quasiment 100 ans et qui a toujours une aussi grande réputation aujourd'hui. On a aussi Harakiri de Masaki Kobayashi qui avait gagné le grand prix spécial du jury à Cannes en 1963, mais on ne peut passer à côté de la figure de ce genre de cinéma, Akira Kurosawa, et ses films tous plus historiques les uns que les autres. Je vous cite pêle-mêle Rashomon, Ran ou encore Les Sept Samouraïs pour le plus connu. C'est ce dernier surtout qui a marqué la pop culture. Je vous rappelle que Star Wars au départ est ce qu'il est grâce à ce film, hein, et c'est George Lucas lui-même qui le dit. C'est donc une nouvelle étape peut-être dans le cinéma de samouraï qui va s'écrire avec Le Joueur de Go, dont le jeu de Go typique au Japon tient une place importante dans le film, vous vous en doutez bien. Le film était diffusé en avant-première pendant les dernières saisons Hanabi, qui mettent en avant la culture japonaise, et le film avait été énormément plébiscité par les spectateurs en étant le coup de cœur de cette édition. Un coup de cœur que vous aurez aussi sûrement au Dietrich, où vous pourrez retrouver le film dès aujourd'hui et pendant les prochaines semaines.
Et vous continuez aussi votre cycle David Lynch.
C'est ça. Mardi soir avec 21h, pardon, on continue notre rendez-vous une année avec. Donc cette année, c'est une rétrospective du cinéma de David Lynch que nous vous proposons. Et après avoir replongé dans ses premiers films en noir et blanc et Eraserhead et Elephant Man, c'est cette fois l'atmosphère bleutée de Blue Velvet qui sera à l'honneur. Je vous rappelle, le film de 86 raconte l'histoire d'un jeune homme qui se lance dans une enquête qui mêle groupe de criminels psychopathes et chanteuses de boîtes de nuit. Tout ça après avoir découvert une oreille coupée dans un champ. Un jeudi finalement dans le cinéma de David Lynch. Hein. On aura un casting 4 étoiles qui regroupe Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Kyle MacLachlan ou encore Laura Dern. Alors n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce film culte de Lynch sur grand écran en séance unique. Le mardi 1er avril à 21h, on vous y attend très nombreux.
Merci beaucoup pour tous ces conseils cinéma et tout de suite c'est l'heure de l'agenda. Aux archives départementales, cet après-midi entre 14h et 18h, récit photosensible, un atelier d'écriture photographique par Chloé Baudry, autrice. À partir d'une sélection de photographies de la Seconde Guerre mondiale conservée aux archives de la Vienne, Chloé Baudry propose d'animer un atelier d'écriture afin de faire découvrir ou redécouvrir les liens entre écriture et photographie. En écho à sa pratique d'autrice qui intègre très souvent des archives, elle guidera les participants et participantes pour que chacun et chacune puisse écrire un texte qui dialogue avec une image d'archive. L'atelier est ouvert à toute personne désireuse d'écrire et c'est limité à 8 personnes adultes. Ça dure 4 heures et l'inscription est obligatoire auprès des archives. Attaque 86 vous propose, donc le comité local vous propose une soirée quiz sur l'évasion fiscale, c'est à l'envers du bocal, sur deux créneaux, 17h30, 19h, puis 19h30, 21h pour les retardataires, grignotage sur place avec les préparations de l'envers du bocal, à partir des quiz par faire vos connaissances sur l'évasion fiscale, sur comment la combattre et mettre en place une véritable justice fiscale. La ville de Poitiers vous propose une réunion publique du quartier Poitiers-Ouest. C'est au centre socioculturel de la Biaiserie à partir de 18h30 avec un temps d'échange sur les projets de la ville et du quartier. Donc, centre socioculturel de la Biaiserie, c'est rue des Frères Montgolfier à Poitiers. Jason Brocker sera en spectacle à l'espace République Corner. C'est à 20h et l'entrée est à partir de 23€. Ma version de l'histoire, c'est un spectacle proposé à 20h30 à La Une, à Saint-Benoît. 20 ans de vie commune, Valentine et Sam font une thérapie de couple. Sam n'a pas du tout envie d'être là et Valentine pense que c'est essentiel. Elle raconte leur vie, mais Sam s'insurge, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il se met à raconter sa version de l'histoire. Renseignements sur le site oelaune.com. Sur Pulsar, retrouvez à 21h l'Indépendance, votre émission de Novo Pop, et 23h Sonokino. Léger et nu sur la plage, en scaphandre avec les requins ou bien la tête dans les étoiles en combinaison spatiale. Toutes et tous en apesanteur avec le plus australien des compositeurs norvégiens, Sven Liebeck. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Et Maya Zurlo, l'un des pionniers de la Nukumbia et son groupe Quilombo Sonoro, réinvente le folklore sud-américain en fusionnant des rythmes traditionnels avec des sons modernes. Ils seront en concert au Kamji à Niort le 5 avril. Bonne écoute, à demain.
Pulsar.
Pulsar.